Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Objectif plein emploi cet après-midi en Conseil des ministres, un projet de loi donc qui va réformer l'organisation notamment de Pôle emploi qui devient France Travail. Aude-Kersulec, quelle est la nature de cette réforme?
Eh bien, France Travail, c'est l'organisme qui va être le guichet unique pour les Français à la recherche d'emploi, en remplacement de Pôle emploi, une même procédure d'inscription pour tous, quelle que soit la porte d'entrée, hein, les missions locales ou bien les collectivités, et puis des moyens supplémentaires dans l'accompagnement avec d'autres volets, hein, dans cette loi, l'accueil des personnes handicapées qui seront aussi flochées vers France Travail au lieu de dispositifs spécifiques, et faire que la garde d'enfants ne soit pas un frein à la recherche d'emploi des parents, 200 000 places de crèche d'ici à 2030, et puis les communes de plus de 3500 habitants qui devront recenser les besoins des familles et construire leur offre en fonction ou encore des offres à la mobilité. L'objectif, c'est d'améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi, faire que ce soit un parcours personnalisé. Et d'ailleurs, chaque demandeur d'emploi signera un contrat d'engagement avec France Travail.
Il y a aussi la réforme du RSA qui est déjà contestée. Aude, elle prévoit 15 à 20 heures hebdomadaires d'activité, ce que certains qualifient de travail gratuit.
Alors, le nombre de ces heures hebdomadaires d'activité ne sera pas inscrit formellement dans la loi. On préfère parler de plan d'action adapté à chacun, pouvant prendre plusieurs formes. C'est d'ailleurs ce qu'explique Olivier Richefou. Il est président du conseil départemental de Mayenne, un département qui a expérimenté ce dispositif.
C'est davantage de l'immersion, c'est refaire son CV, c'est peut-être avoir quelques formations pour apprendre à se présenter, apprendre à préparer un entretien d'embauche. Pour ceux qui sont beaucoup plus éloignés, ça peut être quelquefois se soigner, et donc une obligation d'avoir des soins réguliers. Pour certains pour lesquels il y a un lien social à recréer, par exemple, nous avons passé un partenariat avec le comité départemental olympique et sportif, et donc voilà une diversité d'actions possibles. Donc ce n'est pas un travail systématique, c'est aussi des activités qui sont de nature à reprendre confiance en soi.
L'idée, c'est donc qu'une personne qui fait une demande de RSA soit automatiquement inscrite à France Travail, alors qu'actuellement, seuls 40% des bénéficiaires du RSA le sont auprès de Pôle emploi, et de créer des droits et donc des devoirs pour tous les inscrits avec un régime de sanctions progressif allant de l'avertissement, la suspension jusqu'à la radiation.
Merci beaucoup. Aude, un mot, Christophe, de la loi de programmation militaire.
Oui, elle va être votée aujourd'hui à l'Assemblée. 413 milliards d'euros de budget entre 2024 et 2030. Une nette hausse pour faire entrer la France dans une économie de guerre, hein, c'est l'expression du gouvernement. Sur le terrain, certains industriels ont encore un peu du mal à monter en cadence. Exemple, chez Arcus, le fabricant de véhicules blindés à Limoges, avec Raphaël Couder.
C'est sur cette ligne de production, juste derrière moi, que sont assemblés les camions qui portent les fameux canons César. C'est l'un des programmes clés de l'armée française. Et Arcus a relancé la production de ces véhicules il y a tout juste quelques mois. Désormais, un camion César sort tous les 4 jours de cette ligne de montage. L'industriel pourrait faire 2 fois plus, mais il est contraint de s'adapter à la demande, explique la directrice de l'usine.
Le César, dans cette usine, on en a produit 202 précisément. C'est une production qui peut s'arrêter en fonction des exigences et des contrats. Aujourd'hui, on répond à la demande du client. Aujourd'hui, nous, l'usine, elle est capacitaire pour faire plus et pour augmenter les cadences de production.
Arcus est en effet bien prêt à accélérer. Le groupe inaugure ici à Limoges une nouvelle plateforme logistique, un entrepôt gigantesque qui va lui permettre d'optimiser encore un peu plus sa production, estime Thierry Carlier, le délégué général adjoint pour l'armement.
Dès lors qu'on parle de goulot d'étranglement, en fait on a besoin pour fabriquer un matériel de défense à la fois de composants, d'équipements individuels, mais aussi tout un ensemble en fait de ce qu'on appelle des produits semi-finis. En fait, c'est ça qui fait le délai de production d'un matériel. Donc ici, disposer d'une plateforme de ce type-là, ça me paraît un levier formidable en fait pour contribuer de manière très concrète à ces démarches d'accélération.
Mais cette montée en puissance dépendra surtout de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. La LPM prévoit la livraison de 109 canons César d'ici 2030, mais seule une petite partie d'entre eux ont pour l'heure été effectivement commandés.
Y a-t-il un trou dans la raquette dans la taxation des milliardaires français ? L'impôt est censé être progressif et pourtant une étude inédite de l'Institut des politiques publiques arrive à la conclusion que les 75 Français les plus riches ont un taux d'imposition effectif de 26% contre 46% pour les 38 000 ménages qui ne sont pas super riches mais juste riches. Explication Thomas Asportas.
Pour en arriver à ce résultat, les économistes définissent le revenu économique des milliardaires, qui correspond non seulement au revenu fiscal taxé à l'impôt sur le revenu, mais aussi, et c'est la nouveauté de cette étude, au revenu non distribué à ces personnes. C'est-à-dire l'argent qui reste dans leur entreprise après avoir payé l'impôt sur les sociétés et versé les dividendes. Et les auteurs considèrent que c'est aussi du revenu pour ces milliardaires parce qu'ils contrôlent ces entreprises et qu'ils décident donc personnellement de comment cet argent peut être employé. Autrement dit, le résultat net des entreprises est assimilé à un revenu pour les milliardaires qui les possèdent. Et pour les auteurs, il faudrait donc moduler le taux d'IS en fonction de la richesse de la personne qui possède l'entreprise. Un groupe détenu par un milliardaire aurait un taux d'impôt sur les sociétés bien supérieur à celui d'une PME d'un petit patron. Une analyse que Comtesse Bercy, qui répond que la notion de revenu économique ne correspond à aucune réalité fiscale aujourd'hui en France et que le capital d'une entreprise n'est jamais immédiatement disponible comme du revenu, même pour un milliardaire actionnaire majoritaire. Bercy rappelle aussi que la France a le taux marginal à l'impôt sur le revenu le plus élevé de l'OCDE et que 10% des ménages payent déjà 75% de cet impôt. Et enfin, ce paradoxe de la taxation des milliardaires n'est pas propre à la France, puisque le même phénomène est observé chez la plupart de nos voisins européens, de l'aveu même de l'auteur de cette étude.
Merci Thomas. Et puis l'économie chinoise, décidément, elle fait face à un ralentissement plus fort qu'attendu, notamment parce que ses exportations sont en forte baisse en mai, moins 7,5%, bien plus que le consensus des analystes interrogés par Reuters. Ses importations, elles, sont en repli de 4,5%. La Chine qui fait actuellement face à une canicule sans précédent, Laure.
Oui, avec plus de 36 degrés enregistrés la semaine dernière à Shanghai, 38 degrés à Shenzhen. C'est le mois de mai le plus chaud depuis un siècle dans le pays. Les conséquences de la sécheresse sont économiquement catastrophiques. Sébastien Lebelzik à Pékin.
Oui, les conséquences sont déjà bien visibles ici. Il fait 35 degrés aujourd'hui à Pékin. Alors au-delà de la chaleur assommante et du ronron des climatiseurs dans les grandes villes, les campagnes sont dévastées. Les semis de printemps dans les rizières sont déjà brûlés par le soleil. Les prix des légumes ont encore flambé de plus de 20% sur un an. Et dans le nord-est de la Chine, le grenier à blé de l'Asie, eh bien la production devrait chuter et remettre en question l'objectif d'indépendance alimentaire de la Chine. Plusieurs provinces ont déjà limité l'approvisionnement en électricité de plusieurs centaines d'entreprises à forte consommation d'énergie, principalement pour la production d'aluminium. Et cette vague de chaleur historique, eh bien, pourrait coûter entre 1 point et 1,5 point de croissance au PIB cette année. Et puis tous les pays de la région sont également frappés par cette canicule exceptionnelle cette année, de Singapour au Japon, en passant par le Vietnam. Mais selon les experts de l'ONU, la Chine est 30 fois plus exposée que les autres au changement climatique, la faute à son urbanisation galopante et à sa boulimie d'énergie, notamment le charbon très polluant et émetteur de CO2.
Voilà le réchauffement climatique. Heureusement, en Europe, on a une petite accalmie sur le front de l'alimentaire et de l'inflation alimentaire. Le prix du beurre chute fortement depuis décembre en Allemagne. Et c'est un indicateur important, le prix du beurre allemand. Vous allez comprendre pourquoi avec Nathan Cocampo.
Le prix du beurre allemand chute, eh bien figurez-vous que ça annonce peut-être une baisse des prix de l'alimentaire en France. En Allemagne, le prix du beurre chute de 30% depuis le mois de décembre, et ce, alors même que les produits transformés continuent de grimper. La raison principale est simple, le lait coûte moins cher, car les prix des aliments pour les vaches baissent, et les dépenses énergétiques aussi. Mais surtout, en Allemagne, une spécificité, les prix du beurre sont négociés très régulièrement, ainsi la baisse des coûts des matières premières se voit presque en temps réel sur une motte de beurre allemande. Un indicateur avancé donc, et selon certains économistes, ce marché allemand peut refléter une baisse globale des prix à venir en Europe. Alors oui, pour le moment, le prix du beurre ne faiblit pas en France, comme l'huile, les pâtes, les biscuits, mais en France aussi, comme en Allemagne, les dépenses énergétiques et les coûts des matières premières refluent. Il faut juste plus de temps pour qu'ils se répercutent. La décrue devrait arriver avec les nouvelles négociations en cours entre industriels et distributeurs.